Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. Je fais court, mais je vous explique tout dans un instant. On va commencer par l'article 899 qui est inscrit dans la loi de finances aux États-Unis, le One Big Beautiful Bill. Alors, c'est une vraie angoisse pour les entreprises étrangères qui sont installées ou qui font du business aux États-Unis. On parlera de cette déclaration de François Villeroy de Galo. Il veut croire que c'est le moment de l'Europe qui se joue. Au moment où, vous le savez, il y a actuellement des négociations pour trouver une solution ou enterrer la hache de guerre dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le très sombre tableau de la Banque mondiale qui considère que nous vivons la pire année depuis 2008 et en fait la pire décennie depuis les années 60 et qui met très clairement en cause la guerre commerciale engagée par Donald Trump. On essaiera de faire un distinguo entre la position française et américaine en termes de déficit public. En fait, quand on regarde les économies des deux nations, beaucoup de choses se ressemblent, mais il y a aussi des différences. Et justement, dans le cadre des déficits publics, Rex & Code a sorti une note considérant que une solution existe pour sortir l'économie française de l'ornière et sortir la France du piège de la dette. Ça s'appelle la politique de l'offre, sans surprise. Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour Nicolas.
Président de Montpensier-Arbevel, société de gestion, de conseiller en investissement et vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, vous êtes économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. On évoquera un sujet qui me passionne, qui vous intéresse et qui également intéresse Guillaume Dard, notamment dans le cadre du prix annuel de la librairie de l'Écho qui est décerné en partenariat avec Montpensier-Arbevel tous les ans sur l'euro numérique, sujet qui, d'une manière ou d'une autre, inquiète très fortement les banques européennes.
Et plus largement sur les crypto-actifs, sur le bitcoin.
Voilà. Jean-Pierre Pussy, bonjour.
Bonjour.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Cette section 899 s'appelle la loi sur la revanche. C'est un élément de l'OBB aux États-Unis qui prévoit d'imposer pendant 4 ans une surtaxe à une entreprise étrangère qui réalise du business, qui est installée aux États-Unis, si elle a le malheur d'être originaire d'un autre pays du monde qui, lui, a décidé de mettre en place des taxes directement prévues et imaginées pour cibler des entreprises américaines. Alors, l'exemple typique, c'est bien sûr la taxe GAFA en France ou alors les réglementations type DMA ou DSA au niveau européen pour réguler les activités numériques principalement américaines. Guillaume Dard, cet article 899 est-il une menace ?
Vous vous souvenez d'il y a 2 mois, début avril, le jour où le mercredi d'avril où Trump a changé et a tourné Kazakh.
Le 9 avril.
Eh bien, c'était parce que il y avait à la fois le débat sur les droits de douane et de l'autre côté, on sentait poindre l'envie des Américains à travers notamment cet article, mais je ne sais pas si l'article sur le withholding tax, c'est-à-dire de mettre une taxe financière sur tous les profits effectués aux États-Unis sur vos titres, c'est-à-dire que si vous avez des emprunts américains, qu'on va retenir une partie de votre argent, même chose sur vos dividendes, et je ne sais pas si c'est exactement dans le 899.
Je crois que ça y figure également, notamment les dividendes, oui, absolument.
Et ça, c'est très important, parce qu'au fond, si d'un côté, ils veulent gagner la guerre commerciale, et de l'autre, ils veulent, alors qu'ils sont pour l'instant dépendants du reste du monde pour être financés, s'ils repoussent ce financement en le taxant, ça a des effets absolument catastrophiques. Donc, je pense que là, c'est de nouveau une bombe dégoupillée. Est-ce qu'il la sortira ? Il la sortira pas. On voit très bien le pitch que pourrait faire Donald Trump. Il dit, you know, the Japanese people, they're nice, but they're not so nice. Il faut qu'on leur paye 150 milliards de dollars d'intérêts par an. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que on va leur pas tout leur donner, on va en garder une partie. Ou alors, il faudrait qu'ils acceptent d'avoir des obligations à 0% à 100 ans.
Et les fameuses 0% à 100 ans,
c'est là,
été imaginé.
C'est l'idée du Jean-Pierre, comment s'appelle l'économiste là, de
Stéphane Miran.
Voilà, Stéphane Miran. Mmh.
Qui avait imaginé effectivement une sorte de switch vers des obligs à 100 ans non rémunérés.
Et là, pour l'instant, le marché, il est dans le taco, c'est-à-dire Trump always chickens out. C'est-à-dire que Trump se dégonfle à chaque fois, il lance des idées, mais il les assume pas. Donc c'est pour ça que le marché considère pas ça. Mais si on le considère au pied de la lettre, c'est une bombe. C'est une bombe nucléaire.
Jean-Pierre, effectivement, on peut imaginer que moi, je suis une multinationale. Enfin, je m'appelle LVMH, je réalise L'Oréal et je réalise une bonne partie de mon activité aux États-Unis. En fait, ça m'inquiète davantage que les droits de douane. Cette histoire-là, si ça va jusqu'à
surtout ce point. Surtout le financier, hein, Nicolas.
Ça dépend. Si tu exportes beaucoup aux États-Unis, t'es quand même touché par les droits de douane.
On est d'accord.
Exportation de biens manufacturés. Bon, après. Alors, d'abord, c'est intéressant parce que, les investisseurs étrangers n'ont jamais autant possédé d'actions américaines. Parce qu'on, en fait, cette mesure-là touche les revenus de capitaux, c'est-à-dire les dividendes, les loyers ou les revenus d'intérêt sur les prêts. Alors les obligations, surtout les obligations du Trésor, ne semblent pas, je dis ne semblent pas, en fonction de tout ce que j'ai pu rechercher là-dessus, ne semblent pas touchées.
Pour l'instant, que,
ouais,
d'accord.
Ouais.
Il ne le fera pas.
Il faudrait mieux pas.
Non, mais
parce
je suis un peu de l'avis du...
Alors, c'est important parce que jamais le marché action américain n'a été aussi pénétré par les non-résidents. Aujourd'hui, on a les non-résidents européens, japonais, chinois, enfin, etc., qui possèdent un peu plus de 20% du marché action américain. Le marché action américain est évidemment le marché action le plus important. C'est énorme, hein, 20%. Ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. Et juste pour donner un ordre de grandeur, il y a 30 ans, c'était environ à 5%. Voilà. Donc, il a explosé en partie parce que la performance du marché américain était largement supérieure à celle des
Mais revenons à ce 899, du
Alors,
coup.
Je reviens à ce 899. Voilà. Quand tu as... donc, ça doit représenter environ 16 500 milliards de dollars d'actions possédées par des
non-résidents.
Soit
20% du marché. Okay.
Donc, tu vois, tu vas de 5 à 20, t'as un impact non seulement, effectivement, sur la rémunération des investisseurs, mais t'as même un impact sur le marché actions global. Hein. Un impact de 4 à 5% de baisse du marché actions. Mais ça, à la limite, c'est marginal par rapport à ce que vont subir les actionnaires étrangers. Plus, évidemment, les boîtes qui sont implantées. Alors, déjà, ça a tout un tas de conséquences potentielles. Les boîtes qui distribuent beaucoup de dividendes vont être sanctionnées. Et ça va avoir, par exemple, les utilities, l'énergie aux États-Unis versent beaucoup de dividendes. Les autres, elles ont tendance à faire des rachats d'actions, comme la tech. Et donc, ça favoriserait plutôt les boîtes qui font des rachats d'actions au détriment de celles qui distribuent des dividendes. L'autre chose très importante, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très implantés aux États-Unis. Des secteurs européens, enfin, des boîtes européennes qui sont très implantées aux États-Unis, comme les télécoms. Par exemple, ah bah, eux vont subir un peu plus. Alors moi, j'y crois pas trop à ce truc-là.
Vous êtes trois à ne pas y croire, en fait.
Voilà.
On parle d'un sujet auquel on ne croit pas.
Bon. D'abord, le truc est passé...
Il faut laisser parler de Dany.
Merci. D'extrême justesse à la Chambre des représentants.
Oui.
Il est passé d'une voix. Je rappelle que les sénateurs républicains n'ont que trois voix d'avance au Sénat. Il faut que ça soit voté de la même façon au Sénat. Et j'ajoute... que c'est complètement contradictoire avec l'objectif de Trump de ramener les investissements étrangers aux États-Unis.
Clairement.
Donc, au total, ça me paraît pas fiable.
Ça ressemble à une bombe, comme disait Guillaume Dard, et Dany Long, ça ressemble à une mesure contre-productive.
Je n'ai pas parlé parce que tout simplement je suis en accord avec ce que vous disiez. De toute façon, ça fait partie des choses que fait Trump. Vous vous souvenez, Nicolas, je vous ai dit au début, quand il a pris le pouvoir, qu'il allait mettre l'économie américaine dans un sale état, ça y est, on y est déjà.
Ah, hein.
Et donc, et il en rajoute encore. Donc, moi, je ne crois pas qu'il ira jusqu'à mettre ça sur les emprunts d'État américains, parce que ce serait la connerie des conneries. Mais enfin, il en est capable. Disons que on a vu qu'en quelques mois, comment il a pris un ensemble de mesures qui ont complètement dégradé la conjoncture aux États-Unis. En plus, il est en train de décrédibiliser une mesure légitime pour les politiques industrielles qui s'appelle le protectionnisme ciblé. Donc, j'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout, mais il en est capable. Et vous aviez raison de souligner que le vrai problème, ça va concerner les dividendes et pas les rachats d'actions. Donc, ça va pousser les entreprises à faire des rachats d'actions, ce qui est toujours problématique. Donc, bref, je suis d'accord avec vous.
Mais à un moment, je pense que la raison l'emporte dans ce genre de truc, quand on se rend compte que... on a été capable chez nous souvent de faire des choix.
La raison, je ne suis pas sûr que c'est
largement...
À part M. Miran, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui soutiennent intellectuellement ce que fait Donald Trump.
Bon, d'ailleurs,
c'est juste, oui.
D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même un vrai pouvoir de Wall Street et des grands hedge funders qui ont convoqué Miran et lui ont passé un grand savon... Et ça a retourné la position. Parce que si vous pourrez dire à Trump que s'il veut être celui qui a créé un crack out of the blue dans une économie qui va bien, qu'il prenne trois mesures comme ça.
Et ce qui est quand même... juste Guillaume Stéphane Miran, parce que bon, c'est la, la cellule grise de Donald.
Une des
cellules grises de Donald Trump.
Je sais pas
Trump,
si elle est grise d'ailleurs.
Oui, bon, enfin, en tout cas, c'est l'un des conseillers économiques de Donald Trump. Il a fait Harvard. Il a défendu cette idée qu'il fallait avoir un dollar de plus en plus faible, voire que le dollar ne soit plus monnaie de réserve des États-Unis, en imaginant un accord du Plaza bis, mais cette fois-ci pas à New York, à Mar-a-Lago, en Floride, pour repenser complètement la manière dont le reste du monde détient des obligations américaines.
Et
détient du dollar ou pas, d'ailleurs.
Mais globalement, le Big Beautiful Bill,
oui,
il est big, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est beautiful? J'en doute fortement. Et ce que je trouve très intéressant dans la dernière séquence, c'est quand même l'opposition de Musk à Trump, expliquant qu'il allait dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que il y a eu un espoir entre guillemets. Moi, j'avais pas un procès d'intention vis-à-vis de, je sais pas, comme Danny, en disant dès le début, je pense, mais même s'il avait peut-être des intuitions, ils vont se révéler justes. Mais il y avait quand même dans le Doge une expérience incroyable, puisque ce que connaissent les États-Unis, le connaît, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire par rapport à ce principe de toute administration qui a tendance à s'étendre, la loi de Parkinson, au rythme de 7% par an, il fallait s'y attaquer par un mouvement brutal. Alors Musk, il a beaucoup de défauts, mais il est très très efficace.
Là on va être en désaccord.
Il a donc commencé, et on voit que finalement, ça s'arrête.
Ah ben le résultat est quand même peau de chagrin par rapport aux
États-Unis. Ça, c'est très inquiétant sur la dérive absolue des comptes publics américains.
Alors, deux choses.
Oui, Danny Lang.
Juste rapidement. Premièrement, il n'y avait pas de procès d'intention, une fois de plus. Lors du premier mandat de M. Trump, j'étais beaucoup plus mesuré sur un certain nombre de choses et plus critique sur d'autres. Il n'y avait pas de procès d'intention, c'était... Je jugeais les annonces par rapport à leurs effets macroéconomiques. Et je suis en désaccord avec vous sur le Doge, parce que l'idée du Doge, c'est quand même de couper massivement dans les dépenses publiques. M. Musk n'a jamais compris qu'un État n'est pas un ménage ni une entreprise. Une entreprise ou un ménage qui fait des économies dans une situation difficile, c'est légitime. Quand l'État coupe dans la dépense en situation difficile, ça fait baisser ses recettes. Ne l'oublions jamais, ça n'est pas la même chose. Et ça, M. Musk ne l'a toujours pas compris aujourd'hui.
Un pompier, pour vous donner les chiffres quand même, c'est intéressant, Denis, parce que ça va peut-être relativiser. J'ai un ami qui revient des États-Unis, là, il avait loué une maison qui appartenait à un couple de... lui était pompier, elle était institutrice. Et aux États-Unis, vous pouvez voir les revenus des gens dans des sites de transparence. Lui gagnait 250 000 dollars et elle 100 000 dollars. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a des coûts de fonctionnement qui sont importants. C'est donc un débat assez différent de celui qu'on a en France où les fonctionnaires ne sont pas très bien payés.
Et ça, c'est vrai.
La fonction. Donc, nombreux. C'est pour ça. Et que donc, dans le Doge, il y avait quand même quelques idées en disant il faut pouvoir arrêter un certain nombre de dépenses.
Dans le Doge, ce qu'ils ont fait, c'est surtout arrêter. Finalement, ils se sont tirés dans le pied.
C'est trop idéologique.
Ils ont arrêté notamment avec l'USAID quelque chose qui garantissait une influence américaine dans le monde. Donc c'est absurde du point de vue des propres objectifs.
Ça a été fait assez aveuglément à tel point qu'on s'est rendu compte.
Non mais c'est stupide. C'est absolument stupide.
Non mais ne nous arrêtons pas à ça. Le mouvement était important.
Attention. Bon.
Jean-Pierre Petit.
Alors, moi, j'ai, en termes de croissance américaine, que je fais des prévisions assez régulièrement, moi, j'ai 1,7% de croissance aux États-Unis.
La Banque mondiale est sur 1,4, là, cette année.
Oui, ben, on va voir. Avant Trump, j'étais à 2,3, 2,4. Il y a une différence, mais c'est pas non plus...
Oui, mais quand même, 1% de croissance. Si on pouvait avoir 1% de croissance en plus, moi, je signe.
C'est même pas... Enfin, c'est un peu moins de 1.
Bon. Oui, d'accord,
Le T2 pourrait montrer des surprises. Mais enfin, bon... après, il y a les déficits publics. Alors, les déficits publics, ils ont augmenté depuis longtemps aux États-Unis. Hein. Alors, il y a quand même des différences. Alors, il y a une analogie avec la France, c'est que le déficit public structurel augmente. C'est-à-dire que même quand il y a une amélioration de la conjoncture, il se dégrade quand même. Alors, et ça, c'est l'analogie avec la France. Alors, je voudrais dire les différences quand même. C'est que moi, je m'inquiète beaucoup moins pour la soutenabilité de la dette fédérale américaine, même si elle est la dette publique, plus exactement, parce qu'il faut comparer les choses comparables avec notamment la dette des États fédérés, des comtés, etc. On est un peu supérieur, 10 points de plus de celui de la zone euro, à peu près, hein, en pourcentage du PIB. Néanmoins, je pense que c'est plus soutenable aux États-Unis, d'abord parce que la croissance potentielle, elle est au moins de 1 point supérieure, donc si tu lises sur 10 ans, ça fait beaucoup. Les dépenses liées au vieillissement qui vont beaucoup augmenter, comme vous le savez, en Occident, bah, sont beaucoup moins importantes aux États-Unis qu'en Europe. Le niveau des recettes publiques, alors ça c'est très intéressant, les recettes publiques, c'est-à-dire les recettes fiscales et l'ensemble des recettes publiques, c'est-à-dire les contraventions, enfin tout ce que vous
39.
Savez, les recettes non fiscales, comme on
les
dit.
Les recettes non fiscales.
Parce que là, elles, 39. On est sur 32-33 aux États-Unis, on est sur 52 en France. Il y a 20 points d'écart. Donc moi, je suis pas quasiment.
Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour aller chercher des recettes supplémentaires.
Comme sous Clinton, rappelez-vous les déficits jumeaux qui augmentaient dans les années 80 sous Reagan à cause de l'augmentation des dépenses de défense et la baisse des impôts. Bah, qui sait qui a résolu ça? Enfin, comment ils ont résolu ça? Bah, par l'augmentation des impôts sous William Clinton. Et puis, il y a le dollar. Alors, je sais bien qu'il y a une méfiance, il y a une défiance qui est née là depuis quelques semaines sur le dollar. Mais sur le long terme, ça m'étonnerait quand même que le dollar perde, enfin à horizon 10 ans, son statut de référence mondiale. Donc au total, je pense que la soutenabilité globalement, la soutenabilité générale. J'ajouterais qu'un dernier point, hein, c'est que sur la dérive du déficit public au cours des dernières années, notamment sous Biden, c'était pour de bonnes raisons quand même. L'IRA, tout le monde reconnaît que ça a quand même eu un effet très positif,
un effet aspirateur,
notamment sur la transition énergétique, etc.
Oui, c'est une vraie politique industrielle. Voilà,
quand
le rappeler.
Quand on voit les montants, Chips Act.
Le Chips Act sur la tech.
Sur la tech
américaine.
Et les semi-conducteurs.
Voilà, donc tout ça a joué quand même. Et sur les infras aussi, il y a eu un effort sur les infrastructures américaines, qui étaient les infrastructures traditionnelles, notamment de transport, qui étaient assez délabrées. Il y a eu donc le Bill Act, j'avais oublié celui-là, le Bill Act sur les infrastructures. Donc, ça a été des déficits publics qui ont augmenté très probablement la croissance potentielle.
C'est du bon cholestérol.
Oui, mais,
c'est le côté bon
pardon,
cholestérol.
Pardon.
Ah non, il y avait Dany, il voulait réagir.
Non, il a déjà réagi.
Non, il a pas réagi, là.
Ce que dit Jean-Pierre est vrai, modulo quelque chose, il faut pas qu'on ait un effet boule de neige par la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va tenir à 4,5% sur la dette 10 ans américaine, peut-être qu'on va aller à 5, mais personne n'imagine un scénario de hausse des taux complémentaires.
C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Pierre.
Il n'aura peut-être pas lieu parce que les taux courts américains vont être baissés, que pour l'instant, il n'y a pas d'inflation. Mais enfin, personne ne sait très bien si cette politique de tarifs s'applique, quel effet final elle aura-t-elle. Tout le monde se demande si ce seront les entreprises qui baisseront leurs marges, si ce sont les exportateurs qui baisseront leurs prix. Mais et pas exclu complètement qu'il y ait une inflation. Si en plus il rajoute 2-3 bêtises comme le fameux article dont vous parliez,
le 899.
Vous et qu'on est dans un climat général un peu d'inquiétude, les taux d'intérêt peuvent grimper à 5-5,5 et là 6.
Comment ça va être chaud là, hein.
Et là 6% avec le profil de déficit budgétaire des États-Unis pour les 10 ans à venir. Là, on pourrait avoir un accident si ce à quoi s'ajoute une faiblesse du dollar. Moi, je suis aussi d'accord avec Jean-Pierre, c'est que à long terme, le dollar, d'ailleurs, depuis 50 ans, depuis l'échange flottant, et si on reconstitue l'euro à partir du Deutschmark, on est à 1,15 de prix moyen sur la période, sur 50 ans, avec des fluctuations, mais ça a tenu. Mais il y a de temps en temps de graves fluctuations, et là, il ne faudrait pas l'avoir, parce que là, vous auriez un effet cumulatif.
Qu'est-ce qui va se passer, Guillaume, si jamais on va à des taux nominaux à 6? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, dans les années 70, ou après Lehman? La réserve fédérale va intervenir. À chaque fois qu'il y a des graves crises de soutenabilité, la réserve fédérale fait tout pour faire tomber le taux réel.
Je te rappelle qu'on est allé à combien on est allé sur les bonds au maximum sous Volcker?
Sous Volcker.
Non, mais les anticipations d'inflation étaient à deux chiffres.
Volcker, c'est un.
Volcker, c'est un épisode de politique monétaire de malade.
On est allé
à un taux directeur à 20%.
Oui, ce que je voulais dire, je ne dis pas que ça va se passer mal. On dit, s'il y a un ensemble d'effets qui font que ça va mal, les taux, la Fed. Et surtout si tout d'un coup la Fed dit non, parce que c'est à cause de la politique budgétaire, de l'inflation, on a des taux qui peuvent aller, et ça n'est plus du tout dans la psyché humaine ni des marchés.
On n'imagine pas revivre Volcker 79-80, tant c'était particulier. Sur l'histoire du dollar, je vous fais rager à Dany, j'admets qu'il y a débat aujourd'hui pour savoir si le privilège exorbitant du dollar est éternel. Tous ceux qui observent ça à la tête froide considèrent qu'on n'a pas d'alternative crédible au dollar aujourd'hui.
Dany Lang,
allez-y,
je demande la parole depuis un moment.
Voilà, je ne sais pas sur quoi vouliez repartir.
Mais j'ai pas mal de points d'accord avec ce qui a été dit. Et notamment, je pense qu'effectivement, les Américains sont dans une meilleure situation que nous au jour d'aujourd'hui, notamment grâce aux politiques qui ont été menées sous Joe Biden et qu'ils ont davantage de marge de manœuvre. Il faut pas oublier non plus que les obligations d'État américaines sont garanties par la Banque centrale, ce qui fait des obligations d'État américaines.
Comment ça,
des...
est garantie par la
Banque centrale? Si l'État fédéral ne vous rembourse pas, la Fed vous rembourse,
non,
ce qui n'est pas le cas.
Juridiquement?
Si, juridiquement, c'est garanti par la Banque centrale, ce qui fait que...
Ça mérite qu'on interroge ChatGPT, là.
Non, mais aux États-Unis...
J'ai jamais entendu dire qu'on avait une garantie de
aux États-Unis, en Angleterre, etc., vous avez des obligations d'État qui sont garanties par la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas dans la zone euro. Donc, et au Japon aussi, ce qui fait que...
La Banque centrale est payeuse en dernier ressort.
Oui, mais elle disons, l'existence même de cette chose fait qu'on n'en aura jamais besoin. Vous comprenez bien,
oui, je vois ce
parce que les agents l'intègrent. C'est comme le fameux taux minimum que touchent les banques s'ils laissent leur argent sur le compte de la banque centrale. Elles n'y ont jamais recours, mais l'existence crée un minimum sur le marché. C'est quelque chose qui vous permet d'ancrer les anticipations des banques centrales. Maintenant, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Les États-Unis sont dans une... Faut se rappeler, vous parliez tout à l'heure de déficit jumeaux. Faut quand même se rappeler que si le secteur privé doit faire un excédent alors que vous avez un déficit extérieur, ça veut dire qu'il faut accepter un déficit un déficit budgétaire. Sinon, vous aurez un privé qui aura un solde nul. Donc ça, c'est une identité fondamentale sur laquelle est basé les déficits jumeaux dont vous parliez tout à l'heure. Donc il faut pas l'oublier, cette identité fondamentale. Si on veut que le privé continue d'accumuler des actifs, il faut accepter à ce moment-là un déficit budgétaire.
C'est aussi le paradoxe de Triffin, c'est-à-dire que depuis l'apparition des changes flottants, les accords de la Jamaïque et surtout la sortie par Nixon en 71 de la convertibilité hors du dollar, la nouvelle monnaie mondiale, et c'est pour ça que vous disiez elle s'impose, c'est le dollar. Mais pour qu'il y ait une croissance mondiale, il faut qu'il y ait beaucoup de dollars. Pour qu'il y ait beaucoup de dollars, il faut quoi ? Qu'il y ait beaucoup de déficit américain.
Bien sûr.
Et donc c'est à la fois une facilité pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement dépenser autant qu'ils veulent, et de l'autre côté, c'est une facilité pour le reste du monde qui du coup a assez de monnaie pour fonctionner. Et donc paradoxalement, mais en même temps, vous êtes appuyé sur une monnaie qui vaut moins puisque le pays est quand même un pays déficitaire. Donc c'est ça qu'a le Triffin appelé ce paradoxe. Et donc si vous voulez resserrer le déficit, eh bien vous allez assécher la monnaie disponible pour les échanges internationaux. Et donc, il va y avoir, c'est pour ça qu'il va y avoir des recherches d'autres monnaies.
Il ne faut pas négliger les volontés des BRICS, justement, de faire émerger un nouvel ordre mondial. On en est loin, on en est très loin, mais l'Inde, la Chine, etc., sont quand même à l'affût de la moindre bêtise, du moindre faux pas des États-Unis.
On marque une pause. Ben justement, vous parliez des BRICS. Alors là, on a eu les conclusions de la Banque mondiale qui considèrent que c'est quand même les pays en voie de développement et les pays pauvres qui sont les principales victimes de ce qui se passe au moment où il y a ces négociations entre la Chine et les États-Unis. Vous me direz si vous accordez du crédit à cet espoir de François Villeroy de Galhau qui pense que tout ce qui se passe, notamment à Londres dans la négociation sino-américaine, mais au niveau mondial, et on va le voir avec les chiffres de la Banque mondiale, eh bien, ça sonne, c'est le moment de l'Europe que nous sommes en train de vivre.
Oui.
Plus en plus de voix l'espèrent. Vous me direz ce que vous en pensez.
On l'a entendu 100 fois.
Ça.
C'est ça le problème.
Ce serait bien, mais
on marque une pause.
On a un coup de pied aux fesses, mais...
C'est intéressant, la soutenabilité de la dette en France par rapport à la dette US dans la mesure où il y a des...
On
marque une pause.
Dans une monnaie commune.
Ouais.
Il faut que le club soit d'accord.
Mais monnaie unique. C'est
la France en bénéficie.
Voilà, l'avantage de cette monnaie...
La France est déficitaire.
L'avantage de cette monnaie commune, c'est qu'elle nous permet aujourd'hui d'avoir...
C'est une monnaie unique.
On tire sur le crédit allemand.
Mais on tire dessus, bien sûr. Mais ça nous permet d'avoir des taux longs qui ne sont pas les mêmes taux longs que
l'Allemagne paye.
Oui.
Ceci étant...
Allez, on marque une pause. À tout de suite. On coupe.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier-Arbevel et vice-président de l'AFG, Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Pas mal de réactions sur ce que vous disiez, Dany Lang, au sujet d'une Fed qui serait là, quoi qu'il arrive, pour assurer le paiement des bons du Trésor américain. L'intelligence sonde dit que la Fed ne sera jamais prêteur en dernier ressort. Mais en revanche, effectivement, elle peut facilement racheter de la dette s'il y a un coup dur.
Et elle l'a toujours fait.
Non, mais c'est un sujet majeur.
Dans la Constitution, juste si je peux me permettre, dans la Constitution américaine, il n'y a pas ce qu'il y a dans les traités européens où c'est formellement, normalement, dans le TFUE, c'est interdit à la Banque centrale de racheter directement de la dette publique.
On a vu ce qu'elle a fait.
Elle l'a fait sous Draghi, et ça a coûté très cher parce qu'elle a dû le faire indirectement. Elle a dû dire aux banques, vous rachetez, derrière je rachète.
C'est un sujet majeur.
C'était marché secondaire, mais c'était d'une hypocrisie totale.
D'ailleurs, aux États-Unis,
mais puis Jean-Pierre sur les taux.
D'ailleurs, c'est un sujet majeur parce qu'aux États-Unis, très longtemps, on n'a pas voulu de banque centrale. Il y avait eu une première tentative, et elle a été arrêtée au début du 19e siècle, et la Fed n'a été créée en 1913. Donc, le rachat des obligations, c'est pas dans la Constitution américaine. Et qu'est-ce que c'est que la monnaie ? La monnaie, c'est la confiance. Parce qu'au fond, c'est la confiance. Qu'est-ce qu'il y a en face de la monnaie ? Il y a l'économie, il y a l'État, il y a le fait de pouvoir prélever des impôts, il y a le fait qu'il y ait une stabilité. Et techniquement, à l'actif d'une banque centrale, il y a essentiellement des dettes de l'État. Il y a un peu d'or et des dettes de l'État. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les banques centrales se disent c'est pas mal qu'on ait un peu d'or de plus. Autrefois, c'était juste l'or qui faisait la contrepartie de la monnaie. Quand vous achetiez, vous aviez un dépôt en banque, en contrepartie, indirectement, il y avait de l'or. Il y a
plus d'or. Heureusement, on n'en est plus là, parce que c'était déflationniste comme système, on est bien d'accord.
Voilà. Mais ça repose donc sur une confiance collective sur le fait que la monnaie va conserver sa valeur. Or, elle conserve naturellement pas sa valeur à long terme. Un dollar d'aujourd'hui, ça représente combien de dollars a perdu en 100 ans, grosso modo, en pouvoir d'achat ? 98%. Donc en fait, il faut que la monnaie...
J'ai pas compris vos 98%.
Un dollar d'aujourd'hui, c'est 2 cents il y a 100 ans. C'est-à-dire 98% de la valeur de la monnaie disparaît. Si vous gardez votre billet sous votre matelas, à condition qu'il soit toujours valide, il a perdu 98%. Donc la monnaie, fiduciaire de confiance, elle fond à long terme. À court terme, elle conserve sa valeur sous réserve qu'on ait confiance. Et de temps en temps, la confiance se rompt parce qu'à un moment où il y a de l'inflation, les banques impriment trop de billets. C'est l'histoire de Weimar. On avait demandé au gouverneur de la Banque centrale allemande pourquoi il avait fait autant de billets. Il dit, il y en avait besoin. Voilà. Sinon, il y a de la déflation. Donc, et la confiance dans la monnaie, elle dure sous réserve qu'il y a un gars qui a les manettes, qui est le gouverneur de la Banque centrale et sa petite équipe, qui ne fasse pas ce que lui dit le gouvernement toutes les deux minutes, puisque le gouvernement, gouvernement démocratique, il est soumis à une pression en disant on a besoin d'argent, il faut payer tout le monde. Et fais-moi plus d'argent. Et donc, le gouverneur de la Banque centrale, il doit rester raisonnable, il doit avoir des règles. Et oui, il va acheter, si on reste dans un fonctionnement à peu près normal, il va acheter de la dette d'État pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents, mais s'il le fait les yeux fermés et à livre ouvert, provoquer la fuite devant la monnaie parce qu'on n'aura plus confiance.
Attention quand même à ce genre de raisonnement qu'on a mis dans les traités et qui ont fait que la BCE a mis 3 ans à faire le nécessaire en 2009. On a laissé traîner 2009-2010. Il a fallu attendre septembre et les annonces de M. Draghi qui n'avait pas les outils d'ailleurs pour faire ce qu'il a fait. Il est allé en parallèle des traités, il faut être clair, et ça nous a coûté très cher parce qu'il a dû dire aux banques, faites-le, et moi derrière, je rachète.
Ok, dans un sens, mais si on va dans l'autre et qu'on achetait tous azimuts, toute dette et de.
Je n'ai jamais dit ça.
Juste un point.
J'ai dit que la dette américaine était garantie par la Fed. Alors peut-être que ce n'est pas le cas dans les traités, mais formellement, c'est le cas.
Bon. On avance, Jean-Pierre, ce que vous vouliez dire à propos des taux, notamment la comparaison taux-Europe.
Je vais essayer de réconcilier tout le monde parce que
tout le monde.
Les taux d'intérêt réels, longs, réels, aujourd'hui sont.
Alors, le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt où on soustrait l'inflation.
Oui, les anticipations d'inflation.
Les anticipations pour la soutenabilité de la dette publique.
C'est ce qui compte pour la soutenabilité.
Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 2 aux États-Unis. Ils sont un peu plus de 1 en zone euro. Ça ne tient pas, pour moi. Compte tenu des besoins.
Qu'est-ce qui ne tient pas ?
C'est le niveau de taux réel. Il faudrait qu'il soit plus bas. Pourquoi ? Parce que la croissance potentielle, alors elle a un petit peu augmenté aux États-Unis, mais en Europe, elle a plutôt tendance à baisser. On est à 0,8 pour moi en zone euro. Donc, avec un taux réel au-dessus de 0,8, déjà, il y a une question objective de soutenabilité. Mais avec les besoins de financement qu'on a sur les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, ça ne tient pas.
Donc, il faut que les taux baissent.
La transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique. Il va augmenter
gérer les dépenses de défense comme jamais on l'a fait depuis 1945, en l'espace, on va dire, d'environ 5 ans. La transition démographique avec le vieillissement, enfin, tout ça, on va pas tenir. Enfin, je veux dire, à la fois financièrement, mais aussi économiquement, j'ai envie de dire politiquement. Donc, il faudra passer par des taux réels plus bas. Et je pense qu'on finira par baisser les taux directeurs par un niveau proche de zéro.
Comment on passe par des taux d'intérêt?
Il y a qu'un seul moyen pour être sûr de les faire passer sous les zéros, à mon avis, c'est le quantitative easing.
D'accord.
C'est ça qui a fait baisser. Quand la Banque centrale se présente acheteuse en dernier ressort des obligations d'État, personne ne va s'y opposer. Parce qu'on ne peut pas s'y opposer à une Banque centrale, par définition, puisqu'elle n'a pas de contrainte de passif. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, en Europe et encore au Japon aujourd'hui, les taux d'intérêt réels ont été et vont redevenir, selon moi, au cours des prochaines années, pas immédiatement, ni même en 2026, mais vont repasser en territoire négatif.
C'est votre bonne idée. L'avenir est dans des taux réels négatifs, voilà, avec un retour des politiques.
C'est un débat extrêmement intéressant, parce que on poursuit le raisonnement, je comprends très bien ce que veut dire Jean-Pierre,
mais, moi aussi.
Mais à ce moment-là, on repasse dans la phase précédente, c'est-à-dire celle de 2020, où on a eu quoi? On a eu l'effet Cantillon, c'est-à-dire que l'inflation, elle se passe pas dans les prix de consommation courante,
mais dans les actifs.
Mais dans les actifs, avec une bulle d'actifs extrêmement forte. Alors, vous me direz, ça va. Je sais pas,
il y avait un auditeur qui disait que
Mon pensier Bevel, c'est très bon pour des sociétés comme nous.
Oui.
Donc, et pour les
c'était sur les marchés et dans l'IMO.
Et pour les investisseurs qui achètent des actifs financiers. Et donc, ça repose un problème de bulle, puisqu'on l'a vu. Et que donc là, et d'inégalité et de société à deux vitesses. Donc c'est assez complexe. Je crains en fait que Jean-Pierre ait raison, parce que les banques centrales, en plus, ça les arrange parce qu'elles ont dans leur bilan beaucoup d'obligations sur lesquelles elles perdent de l'argent depuis la montée des taux obligataires. Et vous avez vu, il y a un gros débat à la Banque d'Angleterre, et la Banque d'Angleterre, qui doit être remboursée par l'État, demande à ce qu'éventuellement l'État rachète un peu d'obligations. Donc ça fait des jeux de bons taux assez complexes. Donc il peut y avoir une volonté de certaines banques centrales de refaire baisser les taux très fortement. Ça résoudra un certain nombre de problèmes, comme l'a dit Jean-Pierre, mais ça va en créer des monstrueux. Et moi, je le dis, si on fait n'importe quoi avec la monnaie, on arrivera à créer une fuite devant la monnaie à un moment ou à un autre. C'est pour ça d'ailleurs que les monnaies numériques et que le Bitcoin continuent leur chemin. Actifs numériques.
Jean-Pierre ait raison et je crains que Guillaume ait raison.
J'ai résolu ce problème que tu viens d'évoquer depuis 25 ans en parlant d'économie de bulle. En disant que
le fait de parler d'économie de bulle, est-ce que ça résout le problème?
Et
est-ce qu'on peut se permettre de refaire une bulle d'actifs comme celle qu'on a vécue avec les QE?
Il y a plein de survalorisations d'actifs. Alors, on parle pas de bulle parce que le terme de bulle, l'expression bulle, la définition d'une bulle mériterait d'être un petit peu plus explicitée et plus d'un point de vue empirique et scientifique. Mais indépendamment de ça, c'est le monde dans lequel on vit depuis, j'ai envie de dire, l'acte fondateur. Moi, je l'avais daté au 19 octobre 1987, lorsque Alan Greenspan, à la suite du krach boursier, avait injecté des liquidités. La Banque du Japon avait injecté des liquidités au point de créer les deux plus grandes bulles contemporaines dans l'immobilier et dans la bourse, en plus. Le Japon, qui ne sont d'ailleurs jamais vraiment remis complètement. Et on vit comme ça. Et on a besoin de taux réels.
De taux réels négatifs.
Je disais, pour résumer les choses, il faut vivre dans l'économie de bulle parce qu'on n'a pas le choix, mais pas de l'économie de bulle. Ça ne devrait pas empêcher les réformes. Non. Et les États-Unis montrent quand même qu'ils font des choses bien.
Jean-Pierre, nous, les Européens. Vous avez très certes, le scénario est très probable. Je pense que le scénario de Guillaume l'est également.
C'est pas incompatible.
Si on revient dans ces univers-là, je trouve ça un peu.
J'aimerais réagir.
Et l'autre univers où on a.
Allez, vas-y, Denis.
Je sais pas où est le point. Alors, vas-y, Denis.
J'aimerais réagir parce que je suis pas sûr que ce que vous avez dit est encore adapté au monde contemporain. Évidemment, quand on injectait trop de monnaie des années, ça avait des effets inflationnistes. Ça a été le cas sous la Régence entre Louis XIV et Louis XV. On n'en est plus là. Le système monétaire a beaucoup changé. Quand on injecte massivement de la monnaie, ça n'a pas nécessairement des effets inflationnistes, en tout cas dans l'inflation sur son ensemble. Effectivement, le QE a eu quelques effets inflationnistes sur des actifs et sur l'immobilier. Mais par contre, je voudrais souligner à quel point je suis d'accord avec vous sur la nécessité d'avoir des taux réels négatifs. Parce que les taux réels négatifs, finalement, ça permet l'émergence d'une classe moyenne. Mmh. C'est comme ça qu'on a fait émerger en France une classe moyenne pendant les 30 Glorieuses. On avait des taux réels très négatifs, ce qui fait que beaucoup de gens ont accédé à la propriété. Dans un contexte où on a besoin, un, de refaire les logements, il faut réfléchir à la réfection des logements, revenir sur la prime rénov, c'était pas une bonne idée. On en a besoin. Dans un contexte où on a besoin de construire, il faudrait, dans l'absolu, avoir un peu plus d'inflation. L'inflation qui était trop élevée aux US, maintenant, se retourne comme un atout parce que ça vous fait un taux d'intérêt réel qui est plus bas. Donc, je suis d'accord avec vous, il faudrait baisser le taux d'intérêt nominal de la Banque centrale. Jusqu'à quel niveau, c'est à discuter. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au QI ? Je suis partagé. D'après mes derniers travaux, le QI a aussi des effets intéressant parce que en matière de redistribution, il profite aux classes moyennes et il profite un peu moins aux 1% et aux 10% que classes moyennes, même s'il leur profite quand même. Je suis pas sûr qu'il faut revenir au QI. Par contre, si on veut un taux d'intérêt réel négatif, il faut absolument baisser. Oui, non, mais c'est les banques centrales disaient que ça baisse les inégalités. Beaucoup d'économistes disaient que ça les augmente. D'après mes travaux, ça enrichit ceux qui ont déjà des actifs, c'est-à-dire des maisons, des actions, des obligations, mais ça enrichit moins ceux qui sont tout en haut que ceux qui sont au milieu. Alors, mes travaux peuvent être faux, mais je suis assez confiant sur ce travail.
Quantitative easing bis. La photographie de la Banque mondiale, avec tout ce qu'on vient de se dire là, la solution de demain, de toute façon, elle est dans les mains des banques centrales avec des taux d'intérêt réels négatifs et pourquoi pas des politiques expansionnistes quantitatives de la part des grandes banques centrales. Et là, on a la Banque mondiale qui quand même nous fait un tableau. Il faut combien de taux d'intérêt réels négatifs là quand on voit qu'à quel
point ça rentre ? Attends, tu veux préciser le tableau de la Banque mondiale ?
Non, mais le sujet.
Pardon ?
C'est pas les taux le sujet. Parce que, pardon, moi je l'ai bien lu l'article de la Banque mondiale et ça fait suite à un certain nombre d'articles qui montre la corrélation, et on a travaillé chez Montpensier Bevel sur des études très longues, sur la corrélation entre le commerce international et la croissance.
C'est exactement ça, l'histoire.
Et donc, le commerce international, alors c'est un peu l'œuf et la poule, mais enfin, l'œuf a l'air d'être quand même le commerce. C'est-à-dire que la croissance du commerce contribue à celle de la croissance mondiale. Et donc, dès qu'on ralentit le commerce international, on ralentit la croissance, et donc, bien évidemment, le sujet des droits de douane est majeur et toute restriction du commerce a des effets très très négatifs sur la croissance. Mais le sujet, c'est que le commerce, il se développe deux fois plus vite en moyenne que la croissance. Pas exactement maintenant, mais c'est si vous prenez sur 50 ans, ça va deux fois plus vite. Mais dans le commerce, autrefois, ça se passait dans notre petite bulle d'États occidentaux, entre guillemets, qui représente qu'un milliard d'habitants sur les 8 milliards de la Terre. Et donc, les pays émergents, et surtout la Chine, ont pris leur part du marché. Et donc, c'est là où le commerce devient plus antagonisant, entre guillemets, notamment pour les États-Unis, et qui vont réduire le commerce. Mais si on réduit le commerce international, on va réduire la croissance. On est dans cette phase-là, et c'est ce que la Banque mondiale démontre dans son très bon papier.
Et elle a dit que les pays pauvres vont mettre 20 ans à s'en remettre.
Juste une réaction. Là, on a un point de désaccord.
Qu'est-ce qu'elle dit, la Banque mondiale ? J'aimerais savoir. T'as l'air de dire qu'elle décrit des choses horribles.
Elle dit qu'on va avoir 2,5 de croissance mondiale.
La Banque mondiale nous explique que globalement, on est en 2025 en train de vivre la pire année depuis 2008 et que globalement, la décennie.
Quoi.
Ah ben c'est les conclusions de la Banque mondiale.
En 2009, on est en négatif. En 2020, on est en négatif. En 2015, on est en dessous. 2016, la croissance. Les États-Unis sont même pas à 2. C'est quoi ces histoires ?
Non, il dit 2,5 sur le mondial. C'est la pire imparcielle du Covid.
Oui. Elle compare 2025 à 2008.
Pas depuis.
Elle compare 2025 à 2008.
Après s'être attaqué au FMI, attaque la Banque mondiale.
Ça me paraît pas juste.
Ça vous paraît pas juste.
2015, 2016, c'est une mauvaise année. 2011 est une mauvaise année.
2,5, c'est bas, Jean-Pierre, au niveau mondial.
Il résonne en PPA déjà ou en dollars ? Parce que c'est pas la même chose.
C'est une bonne question.
Si m'est juste permis d'intervenir, entre-temps, effectivement, il faut voir quel est le raisonnement. Moi, j'ai pas lu non plus. J'ai essayé de le trouver.
2,3% contre 2,7% en 2025.
On n'est quand même pas en 2008. On n'est pas en 2008.
Alors, on va se battre sur les conclusions.
C'est l'effondrement généralisé.
Non mais Nicolas qui fait la synthèse. Lisez le papier. Ouais. C'est pas sur son là. Il dit c'est une très mauvaise année et on comprend pourquoi.
C'est pas une bonne année. Je suis d'accord, mais c'est pas une année catastrophique. Dit, bon.
Bah, au niveau mondial, si tu veux.
J'aimerais juste revenir sur la causalité entre le commerce et entre. Il y a une corrélation entre le commerce et la croissance. Cela dit, il y a quand même des travaux et notamment les travaux de l'historien Paul Bérod qui montreraient plutôt que la causalité c'est de la croissance vers le commerce. Ce qui ne veut pas dire que les droits de douane de tous les côtés qui ne sont pas au service d'une politique industrielle, notamment ceux de Trump, ont du sens. Hein. Les droits de douane sous M. Biden en avaient beaucoup plus, parce que c'était au service d'une politique ciblée, industrielle, etc. Mais les années 30, on a réduit le commerce mondial fortement. Trop fortement sans doute, mais c'était une conséquence de l'effondrement de la croissance. Donc attention à la causalité entre croissance et commerce. Paul Bérod développe le 19e siècle et dit clairement c'est dans les périodes les plus protectionnistes qu'on a eu le plus de croissance. Et il y a d'autres travaux qui vont dans ce sens. Tous les travaux ne vont pas dans ce sens-là, mais attention au sens de la causalité quand même.
Juste un
Jean-Pierre Petit.
Sur la croissance. Cette année aux États-Unis, moi je te dis, j'ai un 7.
Le consensus un peu en dessous. 0,7 en zone euro, 1,4 pour les États-Unis.
Non, zone euro capable de faire un peu plus.
4,5 en Chine, nous dit.
Mais c'est la Chine, si t'as 4,5 en Chine, elle te tire.
C'est le chiffre. Le chiffre est inchangé pour la Chine à 4,5 dans les docs de la Banque mondiale. Mais ce sont les pays en voie de développement et les pays pauvres qui trinquent.
L'Inde est à 5,5. Non, je suis pas d'accord avec ça.
L'Inde est un petit peu en dessous. La Chine. Non, mais si on analyse. Oui. Si on analyse le cycle. Hein, sur...
C'est pas terrible.
La croissance mondiale, elle était plutôt à 3,5-4, tu dirais.
Oh non, ça faisait un petit moment qu'on n'y était plus.
Enfin.
Bah, si, en 2021. Mais 2021,
voilà. Non, mais on prend un trend d'un peu long. On était à 3,4. Pourquoi? Parce qu'on avait une Chine très longtemps à 10, à 7.
Oui,
et mais maintenant qui a passé les 5 à la baisse. On a eu l'Inde, mais c'est pas très gros au niveau mondial.
Elle monte pas au niveau de Chine.
Mais ça fait 7%. On a eu des États-Unis à 3% et on a une Europe qui n'arrive jamais à s'en tirer, disons à 1,5 en moyenne. Bon. Et donc là, personne ne sauve. Dans les périodes précédentes, vous aviez la Chine qui assurait à elle-même 30% de la croissance mondiale. Donc elle est plus grosse, donc 4,5 c'est quand même significatif. Elle sauve la croissance mondiale à ce niveau-là. Elle la sauve quand même. Mais on voit bien, comme pour les aspects démographiques, qu'on est en train de tangenter vers nos niveaux bas occidentaux pour les pays émergents.
Oui, mais c'est pas 2008 pour autant. Et
mais
puis
mais
par ailleurs,
qu'il faut retenir.
Et puis par ailleurs, les 4,5 pour la Chine, j'aimerais quand même
c'est
rappeler.
C'est un trend négatif.
On va pas se battre sur les conclusions et la précision.
Non, le trend est négatif, mais c'est pas comparable à 2008, je suis d'accord avec vous. Ceci étant dit, en Chine, ça me paraît extrêmement fragile au vu de l'endettement privé qui a atteint des niveaux stratosphériques.
Et public.
Attention. Alors certes, en Chine, l'État contrôle directement les banques et donc pourrait agir de manière beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux, mais quand même l'endettement privé est très inquiétant en Chine et pourrait durablement plomber le pays. Hein.
C'est un pays qui est devenu endetté et vieux avant d'avoir été riche. Pour un pays à $21,000 par habitant en PPA, c'est problématique.
Parité de pouvoir d'achat.
Mais quand même, gardons, il y a un petit trou de souris pour la Chine pour les 20 dernières années qui nous ont rappelé dernièrement dans la bataille Trump, c'est que c'est devenu aussi une puissance technologique. Et c'est le seul pays à revenu intermédiaire qui est devenu une puissance technologique.
Complètement, et
ça,
ils l'ont
c'est
fait.
C'est le petit trou de souris.
Premier pays pour les robots, enfin bon,
voilà.
Pas les voitures électriques.
Xi Jinping, il doit aller là-dedans et pas faire ses bêtises de 2021, s'il recommence à faire ses...
On avance. Oui, pardon, on avance.
C'est devenu une puissance technologique aussi parce qu'ils ont copié les brevets sans respecter les droits.
Ils sont pas tous des crétins.
J'ai pas dit que c'était des crétins. Ils sont pas très intelligents.
Ils ont profité.
Ils ont pris une longueur d'avance sur la voiture.
Ils ont pris une longueur d'avance en copiant les brevets sans payer les brevets. Donc,
je sais pas quels brevets ils ont copiés, mais nous, on ne les a pas, les brevets.
Quand vous allez à Shenzhen, si vous voulez.
Ils nous ont dépassés, évidemment.
Quand vous allez à Shenzhen, tout est électrique. D'ailleurs, c'est gênant tellement c'est silencieux que vous voyez des drones livrer les paquets. Que vous voyez des gens payer avec la paume de leurs mains, ils ont pris une bonne avance.
On a 6 minutes.
Je vais juste donner un chiffre.
Un chiffre.
La première fois que j'étais en République populaire de Chine, c'est en 89, l'année de Tiananmen, et les dépenses de R&D en pourcentage du PIB étaient de 0,4%. Aujourd'hui, elles sont de 2,5%.
Oui, bah oui, mais
au-dessus.
Le PIB a été multiplié par.
Ça.
Là, je compte
1000.
Plus. Je ne compte
en plus, oui. Nous, on est à 2,2 du PIB.
Oui, bah nous, on coupe dans les budgets de la recherche.
On va pas faire du budget de la recherche maintenant. On a 6 minutes.
Bon.
Je voudrais qu'on parle de l'euro numérique. J'adore ce sujet. Sur les les réseaux sociaux, dès qu'on voit Euro Numérique, les gens sont persuadés que ça va être la pire attaque et le pire, la pire entorse à la liberté individuelle des individus jusqu'à la disparition du cash. C'est la grande idée qui circule. Les banques, elles, sont tétanisées avec ce projet, dont elles ont du mal à voir les limites précises. Mais on peut tout imaginer. Alors là, elles sont en train de chiffrer ce que ça leur coûterait si l'euro numérique intervenait. Mais c'est même leur existence même de banque commerciale qui commence à créer des inquiétudes. Guillaume Dard, par rapport à ce sujet sur lequel la Banque Centrale Européenne avance inexorablement.
Le prix Nobel Hayek, en 1974, disait « Si on veut retrouver une monnaie solide, il faut l'enlever des mains des gouvernements. » Et il rajoutait « Comme c'est un peu compliqué, il faut le faire doucement. » Et en 99, Friedman disait « Internet naît, il va bien trouver un moyen de créer une sorte de nouveau système monétaire. » Et ça a été très en douceur, très progressif, et on a vu le Bitcoin surgir, dont on a annoncé la fin à peu près tous les ans, la catastrophe à venir, et qui s'est progressivement infiltré dans le système financier mondial, à tel point que vous avez vu que c'est le tracker de BlackRock. Qui a représenté, je sais pas combien il fait maintenant, mais enfin 40 milliards de dollars, que l'effet de la blockchain globale a contribué à cela, que le Bitcoin et d'autres monnaies, mais surtout le Bitcoin, parce que c'est celui dont le système semble le plus structuré, s'est installé dans le paysage financier. Et pourquoi ? Parce que, justement, personne ne peut en créer plus qu'un certain nombre, alors que le gouvernement, comme on l'a dit, peut faire de la planche à billets.
Alors, le Bitcoin, c'est comme l'or, c'est une quantité finie.
Alors, les banques...
C'est une quantité finie.
Les banques centrales
ont vu le mouvement et ont vu la facilité aussi de développement de nos habitudes numériques et se sont dit, ce serait bien qu'il y ait une monnaie numérique. Mais alors, se pose ensuite immédiatement un certain nombre de problèmes, c'est que le Bitcoin n'est pas anonyme non plus, mais l'idée du Bitcoin d'une banque centrale, c'est quand même il va être à votre nom, et puis ça permet en théorie de vous envoyer de l'argent quand il y a la pandémie de 2020.
Ah, hélicoptère monnaie,
et puis, mais en même temps, ça peut inquiéter pour se dire ce qu'on a mis sur mon compte, est-ce qu'on peut l'enlever ? Et traditionnellement, la banque centrale crée la base monétaire, refinance les banques commerciales qui, elles, créent vraiment la monnaie par l'effet du multiplicateur. Et les banques commerciales se disent, mais on va être bypassé s'il y a ce système-là. Oui. Alors, on a commencé à dire, non, mais ce sera qu'une petite tirelire, avec un maximum de 3 000 euros.
Oui.
Donc, ça crée un premier débat, ça fait peur aux banques commerciales parce que ça prend leur business. Le deuxième débat pour les banques commerciales, c'est que ça va coûter très cher à organiser et à équiper. Et le troisième phénomène, c'est que c'est pas sûr que ça fonctionne, puisque ça n'a pas justement l'argument de la liberté que peut donner un crypto-actif. Je vais pas dire crypto-monnaie, mais la monnaie, on n'est peut-être pas sûr de la valeur de votre monnaie.
Sacré débat sur cet euro numérique. Allez-y, Denis Langlet.
Alors là, j'ai des désaccords, notamment sur la pluralité.
Tant mieux.
Allez-y.
Sur les
on a 2 minutes 30.
La pluralité monétaire. La pluralité monétaire en Allemagne quand on a l'hyperinflation, comment est-ce que Monsieur Schart, commissaire à la monnaie, résout l'hyperinflation en interdisant toutes les monnaies parallèles, etc., ce qui a ruiné des centaines de ménages. Il les interdit. Et c'est comme ça qu'il tue. Donc les monnaies parallèles, c'est une idée qui peut être séduisante pour un certain nombre de personnes, je n'en fais pas partie, parce qu'attention, ça peut être une source aussi d'inflation, ça vous permet... l'inflation, c'est aussi une situation où on fuit la monnaie nationale pour s'orienter vers des monnaies parallèles ou des monnaies étrangères. Bon, premier point. Deuxième point, les banques commerciales n'ont pas besoin de collecter des dépôts massifs pour faire des crédits. Le ratio entre les deux est extrêmement faible. On est dans un système où quand une banque estime qu'un client est solvable... elle va prêter. Alors évidemment, le taux auquel elle prête dépend du taux auquel elle-même peut emprunter auprès de la Banque Centrale, d'où l'intérêt des taux dont on parlait tout à l'heure. Mais et puis, c'est pas 3000 euros qui vont faire en sorte que les banques commerciales n'ont plus du tout de liquidité, 3000 euros par personne. Simplement...
Les angoisses sont... Il y a les grandes promesses de départ rassurantes.
Je suis curieux de vous entendre là-dessus.
Mais on a une minute,
parce que, très franchement, il y a beaucoup de banques centrales. Enfin, moi, je connais des gens qui travaillent dans les banques centrales, certes dans des pays en développement, qui me disent, on a créé la monnaie numérique parce que, tout simplement, on a peur d'être dépassé par le train, mais on n'est pas sûr de à quoi ça sert.
Jean-Pierre, on a une minute, pas plus.
Trois choses que j'ai dites sur le Bitcoin depuis 10 ans.
Mon premier article sur le Bitcoin, c'est en 2017.
Et on va droit au but.
Je savais pas ce que c'était. J'ai dit qu'il fallait en mettre 0,5% dans le portefeuille. Avec la hausse des prix, maintenant, t'es à 12 ou 13. Donc là, faudrait plutôt alléger. On va dire les choses comme ça. Moi, ce qui m'a surpris dans le Bitcoin, sur les dernières années, c'est que ça a surmonté tous les chocs. L'affaire Bankfield, et quand il y a eu l'acceptation par la SEC, ça a été un super gros booster. Le 5 novembre, quand Trump a été élu,
quoi, par la SEC, parce que
ça a validé.
Ah oui, d'accord. Ok. Et le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est dire qu'est-ce qu'il fallait faire le 5 novembre en matière de Bitcoin. J'ai dit que quand un actif était sponsorisé par la première puissance mondiale, en général, faut plutôt aller dans le même sens que le marché. Voilà. Et j'ajouterais que, comme l'or, ce qui fait la séduction du Bitcoin aussi, c'est comme l'or. La production est limitée. L'or, c'est physique et le Bitcoin, c'est organisé par le système depuis 2009. Et puis, ça n'a pas de passif. Et c'est international. Pas de passif.
Et c'est une preuve de travail.
Oui, mais attention, la monnaie créée par la banque centrale, volatile.
C'est un fait du roi.
Alors que l'or, non.
On a fini.
Donc la volatilité sur le Bitcoin est beaucoup plus.
Vous allez découvrir le prix BFM Business.
Ils vont fermer boutique. Et puis de toute façon, l'euro numérique, on le refera parce qu'on n'a pas eu assez de temps.
Oui, mais il y a encore beaucoup de
temps. Tu seras là
à découvrir.
Allez, c'était Guillaume
Dard. Merci Nicolas.
Dany Lang.
Merci.
Jean-Pierre Petit. Et on se retrouve
jusqu'au 11 juillet.
On se retrouve le. Mais demain. Demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.